Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 53, Daf Nun Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Michi Agriou, à partir du moment où le raisin arrive à la taille d'un garoua, et nous allons expliquer un peu plus loin qu'est-ce que c'est taille. Veazetim et les olives, Michi Yanitsu, à partir du moment où il se recouvre d'une fine peau. Et tous les autres arbres, Miché aussi, à partir du moment où le fruit commence à sortir. Ve'amar Ravasi, et Ravasi a dit, Hu boser, hu girwa, hu poul à lavan. Le boser et le girwa, c'est comme le poul à lavan, c'est-à-dire l'haricot blanc. C'est-à-dire que lorsque nous citons dans la Mishnah le boser ou le girwa, l'intention est au poul à lavan, l'haricot blanc. Alors la Gemara demande immédiatement, poul à lavan, c'est le kadata. Peux-tu penser que c'est l'haricot blanc? C'est pas logique. Nous parlons de la vigne et toi tu me dis que c'est un haricot blanc. Elle a ima, alors en fait il faut dire chiorok et poule à lavane. L'intention est que nous parlons d'un raisin qui a la taille d'un haricot blanc. Ça c'est le boser ou le guiroua. Et donc la vigne, à partir du moment où il y a des raisins de cette taille-là, il est interdit de la battre. Et nous voulons apprendre de là. Uman shamatle d'amar boser in smadarlo. De qui avons-nous entendu dire qu'une vigne, à partir du moment où le raisin est boser, c'est-à-dire à la taille d'un haricot blanc, alors à ce moment-là, on n'a plus le droit de la battre, mais lorsqu'il est smadar, lorsqu'il est encore tout petit et qu'il vient de sortir, il est permis de la battre. Rabbanan, c'est l'opinion des sages qui sont en discussion avec Rabbi aussi. Vektane, et nous avons enseigné dans ces mêmes opinions, Sharkoy Laelanot, tous les autres arbres, Mishayotsiou, à partir du moment où le fruit sort, il est interdit d'abattre l'arbre. Et donc nous voyons que les sages considèrent même un fruit, même lorsqu'il n'est pas mûr, même lorsqu'il est encore tout petit, ils le considèrent comme étant un fruit. Et donc revient la question, comment Rabbi Lai a-t-il pu abattre ce palmier contenant des dattes, même si les fruits étaient tout petits? Alors la Gemara répond, elle a Rabbi Lai, bedenis renekat. Rabbi Lai, le palmier qu'il a abattu, c'est un palmier portant des fruits qui ne vont jamais mûrir. Et puisque ce sont des fruits qui ne vont jamais mûrir, il est permis d'abattre ce palmier, car ce n'est pas considéré comme étant des fruits, et ça ne considère pas que l'on a fait perdre de sa valeur à ses fruits, car de toute façon, il n'avait aucune valeur. Et nous avons fini ici le chiot de Daf Nunbet. Nous commençons Bezrat Hashem, le chiot de Daf Nungimel. Nous sommes Daf Nungimel, Amud Alef, à la septième ligne. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignaient. Ochlim Banavim, on a le droit de consommer des raisins durant la septième année, l'année de Shemitah, Achi Chalou Dlayot Sheluchal, tant qu'il en reste dans les vignes grimpantes de Ochal. Mais à partir du moment où il n'en reste plus là, dans ces vignes grimpantes, alors on peut considérer qu'il n'y en a plus dans les champs, et donc il sera interdit de consommer des raisins chez soi. Im Yesh Meucharot Meme, mais si on sait qu'il y a des endroits où il y a des raisins qui poussent, même plus tard que dans ces vignes grimpantes de Ochal, alors on aura le droit de manger des raisins, hein, tant qu'il en reste dans les champs, dans tous les endroits où on sait qu'il en reste plus tard. Ochlim bezetim achichale acharon shebetkoa. On a le droit de manger des olives tant qu'il en reste à Takoa. Rabbi Eliezer Omer achichale acharon shel gush chalav. Tant qu'il en reste à gush chalav. Kedei sheye ani yotze veeno motze. Il faut qu'il en reste une quantité pour qu'un pauvre aille et en recherche et n'en trouve pas. Lo benofo velo beikaro, ni dans le feuillage ni dans le tronc, rova, une quantité de un quart de cave. Ochlin begrogot, on a le droit de manger des figues sèches, achi chalou page bethini, tant qu'il en reste dans les figuiers de bethini. Amar Rebiuda dit, lo huskeru page bethini, el alenyan maser, que les figuiers de Bethini n'ont pas été mentionnés à propos de la permission d'en consommer durant la septième année, mais seulement à propos du Maaser. Comment cela? Dit-nan, car nous avons enseigné, Pagé Bethini, les figuiers de Bethini, Vaini de Touviné, et les dates de Touviné, Chayavim be Maaser, on est obligé d'en prélever la dîme, bien que ces figues et ces dates sont toujours petites. C'est-à-dire que même lorsqu'elles sont mûres, elles sont complètement petites. Alors j'aurais pu penser qu'on n'est pas obligé d'en prélever la dîme. C'est ce qui vient nous apprendre qu'on est obligé d'en prélever. Et la Gemara continue et nous dit, Ochlim bitmarim ad sheichale acharon shebetzohar. On a le droit de manger des dattes tant qu'il en reste à Tzohar, jusqu'à la dernière date de Tzohar. Rabban Shimon ben Gamliel omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, ochlin al shel ben akipin, ven ochlin al shel ben ashitin. On a le droit de manger tant qu'il en reste dans le feuillage, mais on n'a pas le droit d'en manger s'il en reste dans les ronces. Comme nous avons expliqué plus haut, que les dattiers étaient faits de telle façon qu'en haut il y avait le feuillage et en bas il y avait les ronces. Et des fois, les dattes tombaient dans les ronces. Alors Rabban Shimon, lui, nous dit que s'il en reste dans les ronces, on n'a plus le droit d'en manger, s'il n'en reste plus dans le feuillage. Alors la Gemara demande, Urmini, pourtant nous avons appris différemment. Ochlin ba'anavim, on a le droit de manger des raisins ad Pessah, jusqu'à Pessah, car jusqu'à Pessah il en reste dans le champ. Bezetim ad Atzeret, des olives jusqu'à Shavuot, car jusqu'à Shavuot il en reste dans le champ. Begrogrot ad Hanouka, des figues jusqu'à Hanouka, car jusqu'à Hanouka il en reste dans le champ. Betmarim et des dattes ad Purim jusqu'à Purim, car jusqu'à Purim il en reste dans le champ. Ve'amar Rabibi, et Rabibi a dit, Rabbi Yochanan tarte batraita machlif, que Rabbi Yochanan inversait les deux derniers, c'est-à-dire les figues jusqu'à Purim et les dattes jusqu'à Hanouka. Donc nous voyons qu'en fait, nous on a le droit de manger déjà jusqu'à Hanouka et pas jusqu'à qu'il en reste à Tzohar. Alors la Gemara répond, idi veidi chachiuraou. Celle-ci et cela, c'est la même date, c'est-à-dire la dernière figue de Tzohar se finissait à l'époque de Hanouka. Veibaitema, si tu veux, tu peux me dire une autre réponse. Haktana Bedia, pourtant nous avons enseigné explicitement, Imyesh Meucharot Men, que s'il reste, s'il en reste de cette même catégorie dans le champ plus tard que ce que nous avons cité dans la Mishnah ou dans la Breta, Orlen Alen, on a le droit d'en manger en se reposant sur ce fait, car on sait qu'il en reste dans un autre endroit, dans un autre champ. Ici, c'est la loi générale. En général, les dernières dates pousse à Tzohar. Mais si on sait explicitement qu'à un autre endroit, il y en a qui ont poussé plus tard, on a le droit de manger. Et donc, en fait, ça se contredit pas. Car on peut en manger jusqu'à Hanouka, mais si on sait qu'il en reste à Tzohar plus tard, on a le droit de manger en se reposant sur le fait qu'il en reste à Tzohar. Tania, nous avons enseigné dans une braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Siman laharim, un signe caractéristique de la montagne, Milin, des noix de gale. C'est une espèce de cocon qui se dépose, un tout petit cocon qui se dépose sur les feuilles de certains arbres. Siman la hamakim, un signe caractéristique de la vallée, des kalim, des palmiers. Siman la nechalim, un signe caractéristique des ruisseaux ou des torrents, kanim, les joncs. Siman la shvela, un signe caractéristique de la plaine, shikma. Les sycomores, verfalpi shen raya la davar, et bien que cette chose-là n'est pas prouvée, zecher la davar, mais il y a une allusion à ceci dans le verset. Shenema, comme il est dit, vaiten hamelech et hakesef birushalayim, kavanim, veet arazim, natan kashikmim, asher bashfela, larov. Le roi rendit l'argent à Jérusalem, aussi commun que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores dans la vallée. Donc nous voyons que dans la vallée, il y a des sycomores. La Gemara demande, Siman laharim milin, un signe caractéristique de la montagne, les noix de gale. Siman lahamakim des kalim, un signe caractéristique des vallées, des palmiers. La Gemara demande, en quoi ça doit nous faire une différence? En quoi ça nous intéresse? Quels sont les signes caractéristiques de la montagne ou de la vallée? La Gemara répond, Nafkamina, non, ça fait une différence, les Bikurim, à propos des prémices. Lorsqu'on amenait les prémices des fruits au temple, alors là, ça nous fait une différence. Pourquoi? Dit Nan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. En mevim Bikurim, el ameshivat aminim. Que l'on amenait les prémices des fruits au temple, que les prémices des sept fruits d'Eretz Israël. Velo mitkalim shebarim, et on n'amenait pas les prémices des palmiers des montagnes. Velomi perot chez Bahamakim, et ni des fruits qui poussent dans la vallée. Car dans la montagne, c'est certains arbres qui, eux, sont de bonne qualité, les arbres où donc poussent, c'est où il y a ces noix de gale sur les feuilles, mais les autres arbres ne sont pas de tellement bonne qualité. Or, on n'a amené les prémices que des fruits de très bonne qualité, de la meilleure qualité de fruits. Et donc, c'est pour cela que de la montagne, on ne pouvait pas amener les prémices. Et de même, on ne pouvait pas amener les prémices des fruits qui poussaient dans la vallée, car ce qui pousse bien dans la vallée, c'est seulement les décalimes, les palmiers, mais pas les fruits des retzreds. Donc c'est pour ça que l'on n'amenait pas de ces endroits-là. Siman la nechalim kanim. Nous avons enseigné qu'un signe caractéristique des ruisseaux ou des torrents, c'est les joncs. Alors, nafkamina, en quoi ça nous fait une différence? Agmar nous dit, nafkamina, pour nous, c'est une différence. Les nachal etan. Il y a une loi qui nous dit que lorsque l'on trouve quelqu'un qui a été tué entre deux villes et que l'on ne sait pas quel est l'assassin, alors à ce moment-là, il y a la loi de Egla Arufa. La ville la plus proche devra amener, par l'intermédiaire du tribunal, une Egla, une jeune jeunisse, et l'abattre dans un ruisseau qui a séché. Or, comment savoir si un ruisseau a séché ou pas? Alors là, c'est ce que nous disons. Un signe caractéristique d'un ruisseau, c'est là où il y a des joncs. Et donc, s'il y a des joncs, même s'il n'y a plus de ruisseau, on sait qu'ici, il y avait un ruisseau. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin de savoir quels sont les signes caractéristiques du ruisseau. Siman la shifela, un signe caractéristique de la plaine, shikma, les sycomores. En quoi cela nous fait différence? Nafkamina, la différence, les mekar ou memkar. À propos des affaires. C'est-à-dire, si quelqu'un dit à son ami, je te vends une plaine, il faut que dans cette plaine-là, il y ait des sycomores. L'agma nous dit, achta de atit le hari, et maintenant que nous en sommes arrivés à cette réponse-là, kulunami le mekar ou memkar. Tout ce que nous avons cité plus haut aussi, il y a une différence à propos des affaires. C'est-à-dire, si quelqu'un dit à son ami, je te vends une vallée, alors il faut qu'il y ait des palmiers. Si quelqu'un lui a dit, je te vends un ruisseau, il faut qu'il y ait Dijon, etc. La Mishnah nous dit, Makom shenahagu limkor behema daka lanochim, mochim. Les endroits où on a l'habitude de vendre du menu bétail à un non-juif, on a le droit de le vendre. Makom shenahagu shelo limkor. Par contre, un endroit où on n'a pas l'habitude de vendre, en mochim. Alors à ce moment-là, on n'aura pas le droit de le vendre. Ou bechol makom, par contre, en tout endroit, en mochim laem behemagasa. On n'a pas le droit de leur vendre du gros bétail. Et Rashi nous explique que les sages ont décrété qu'il est interdit de leur vendre du gros bétail, car il y a une règle qui nous dit que de même que nous avons l'obligation de garder le Shabbat et de ne point travailler le jour du Shabbat, nous avons une obligation aussi de ne pas faire travailler nos bêtes le jour du Shabbat. Et l'on craint que si l'on permet de leur vendre du gros bétail, on va permettre aussi de le louer ou de leur prêter aux non-juifs. Et les non-juifs vont donc utiliser ce gros bétail durant Shabbat, chose qui est interdite puisqu'il nous appartient. Ou l'on craint une autre chose, c'est que les non-juifs vont en venir à essayer et à tester ce bétail pour voir leur qualité le jour du Shabbat, chose qui est interdite. C'est pour cela que les sages ont décrété, il est interdit de vendre du gros bétail à un non-juif. À Galim ou Siachim, des veaux et des ânons, Shlemim ou Shvurim, qu'ils soient entiers, c'est-à-dire en bonne santé, ou Shvurim, ou même s'ils ont un membre cassé, on n'a pas le droit de les vendre aux non-juifs. Rabbi Yehuda, Matir Beshvura. Rabbi Yehuda permet de vendre si il a un membre cassé. Ben Betera, Matir Besus. Ben Betera permet de vendre les chevaux. Makom, maintenant nous rapportons une autre habitude encore. Makom shenagu lechol tzli belele psachim, ochlim. Les endroits où on a pris l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah, on en mangera. Makom shenagu shelo lechol. Par contre, les endroits où on n'a pas cette habitude, enochlim, on n'en mangera pas. L'Agma nous dit maintenant, Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Asur lo le'adam shiyomar basarze le pesachu. Une personne n'a pas le droit de dire cette viande-là est pour Pessah. Pourquoi? Mipnei shenira kemagdish behemto. Car il donne l'impression qu'il sanctifie sa bête. Il dit ça sera pour le sacrifice de Pessah. Il la sanctifie. Ve'ochel kochim bachutz. Et donc il mange de la bête sainte à l'extérieur de Jérusalem. Chose qui est interdite. Rav Papa a dit, Davka Bassar, cette loi-là n'a été dit que à propos de la viande. On n'a pas le droit de dire, cette viande sera pour Pessah. Aval chité, l'eau. Mais, du blé, ce n'est pas interdit. Pourquoi? De mintar l'épicera kamar. Car quand il dit une chose pareille, c'est sûr qu'il ne veut pas sanctifier le blé, mais il dit, je le garde pour Pessah. Ou Bassar l'eau. Alors l'agma demande, et ah bon, la viande? Non, on n'a pas le droit de dire, cette viande sera pour Pessah. Mais Tiv et l'agma pose une question. Amar Rabbi Yossi a dit, tout douce ish romi, tout douce une personne de romi, Inig et Bnei Romi a fait prendre l'habitude aux gens de Rome, c'est-à-dire aux juifs qui se trouvaient à Rome, les chol gdihim mekulasim belele psachim, de manger des agneaux mekulas, c'est-à-dire c'était une façon de cuire l'agneau, c'est-à-dire on prenait une brochette que l'on faisait passer de la tête de l'agneau jusqu'à sa queue, et l'on mettait les entrailles de l'agneau à côté de lui, et on le faisait cuire comme ça directement sur le feu. Alors ça s'appelle des agneaux mekulas. Alors lui, tout aussi Gromi, a fait prendre l'habitude aux gens de Rome de manger des agneaux comme cela, belele psachim, les soirs de Pessah, car c'était la façon par laquelle on mangeait l'agneau du sacrifice de Pessah. Shalchulo, alors les sages lui ont envoyé, il m'allait tout douce à ta, si tu n'avais pas été tout douce, gazar nous alech anidouy, on aurait décrété sur toi une peine d'excommunication. Pourquoi? Shata ma'achil et Israël kochim bachutz, car tu fais manger au Béné Israël de la viande sainte à l'extérieur de Jérusalem. Alors la Gemara demande immédiatement, kochim sakadatar, peux-tu penser qu'il leur faisait manger de la viande sainte? Ils n'avaient pas sanctifié cette viande. Et là, alors en fait, il faut dire...
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Daf Nun Gimel Amudbet, Karov l'Achil et Israël Kochim Bachutz, que tu es proche à faire manger les Béné Israël de la viande sainte à l'extérieur de Jérusalem. C'est-à-dire que ce que tu fais, cela donne l'impression que l'on mange de la viande sainte à l'extérieur de Jérusalem. Et de là, nous apprenons, Mekulas in, seulement lorsque nous cuisinons cet agneau de façon Mekulas, c'est-à-dire en brochette avec ses entrailles à côté de lui, alors ça c'est interdit. Shel Mekulas, mais si nous ne le cuisons pas d'une telle façon de Mekulas, alors il n'y a pas d'interdit. Alors pourquoi avons-nous dit qu'il est interdit de dire cette viande sera pour Pessah? Ça, ce n'est pas interdit, car ça ne donne pas l'impression que l'on mange de la viande sanctifiée à l'extérieur de Jérusalem. Alors la Gemara répond, Amré, ils ont dit non. Mekulas, si on le cuisine d'une façon qu'il est Mekulas, cet agneau, Loshna Amar, Loshna Lomar, il n'y a pas de différence s'il a dit explicitement cette viande sera pour Pessah ou s'il ne l'a pas dit. Il est interdit car ça donne l'impression que l'on mange de la viande sanctifiée à l'extérieur de Jérusalem, car cela ressemble à la façon de manger le sacrifice de Pessah. Chez nos Mekulas, par contre, il n'est pas cuisiné Mekulas, il est juste grillé. Piresh in. S'il a dit explicitement cette viande sera pour Pessah, alors c'est interdit de le faire car il donne l'impression de manger de la viande sainte à l'extérieur de Jérusalem. Lo piresh, lo. Mais s'il ne l'a pas dit explicitement, il n'y a aucun interdit. Ravacha, manela, leha, manitin, kirev Shimon. Ravacha a enseigné cette Mishnah que nous avons vue plus haut au nom de Rabbi Yossi, qui a rapporté l'histoire avec Tourdous Ishomi. Lui, il a rapporté au nom de Rabbi Shimon. Alors, Matkifla, Rav Shechet lui a posé une question à Ravacha. Bish, la male, mandetanela, kirev Yossi, nicha. Je peux comprendre d'après celui qui a enseigné cette braïta d'après Rabbi Yossi. Alors, c'est compréhensible. Elle les mande madne que Rab Shimon, mais d'après celui qui l'enseigne, suivant l'opinion de Rab Shimon, minicha, est-ce compréhensible? Ve'adnan, pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah, Rab Shimon poter, Rab Shimon exempt, sheloit nadev keder rabin nadvim, car il n'a pas fait don comme est l'habitude de faire don. C'est-à-dire, il y a une Mishnah qui nous dit que lorsque quelqu'un dit, je fais un don d'amener une oblation d'orge, alors il y a une discussion dans un cas pareil. Car, normalement, lorsqu'on amène une oblation, c'est fait à base de blé. Et lui, il a dit, j'amène une oblation d'orge. Alors, que devra-t-il amener? Alors, Rabbi Shimon nous dit, lui, il est complètement exempt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas offert quelque chose comme il a l'habitude de l'offrir. L'habitude est d'amener une oblation de blé. Lui, il a dit, j'amène une oblation d'orge. Il ne l'a pas fait comme d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'il est exempt. Il n'avait pas l'intention d'amener maintenant une oblation. Donc, nous voyons que même si l'on veut sanctifier quelque chose ou dire que l'on veut offrir quelque chose, si on ne le fait pas comme cela doit être, alors à ce moment-là, on est complètement exempt. Et donc, ici, puisque en fait, la seule chose qu'il a fait, c'est cuisiner l'agneau de façon mekulas, mais il n'a rien sanctifié. Donc, c'est sûr que d'après Rabbi Shimon, puisqu'il ne l'a pas fait comme il a l'habitude, c'est-à-dire de prendre la bête à l'avance et de dire cette bête sera le sacrifice de Pessah et de l'abattre, etc., puisqu'il ne l'a pas fait comme est l'habitude, c'est sûr que cette bête n'est pas sainte. Donc pourquoi Reb Shimon a voulu-t-il excommunier Todos et de Romy en disant que tu donnes l'impression que l'on mange quelque chose de sain à l'extérieur de Jérusalem. Azama le Ravina le Ravashi. Ravina lui a dit à Ravashi. Uman de Matnela ki Rabbi Yossi, Minicha. Et celui qui enseigne cette braïta, suivant l'opinion de Rabbi Yossi, est-ce compréhensible? Ve'ama Rava, pourtant Rava a dit, Rabbi Shimon, Beshitat Rabbi Yossi Amra. Ce que Rabbi Shimon a dit, que lorsqu'on a dit qu'on amène une oblation de blé, une oblation faite à base d'orge, alors on est complètement exempt. Lui, c'est l'opinion de Rabbi Yossi. De'amar qui a dit, Av bigmar dvarav adam nitfas. Que lorsqu'une personne dit deux choses qui apparemment se contredisent, alors on écoute les deux choses, c'est-à-dire et le début et la fin. Et donc, lorsqu'il a dit, je vais amener une oblation, c'est normalement à base de blé. Puis après, lorsqu'il dit, à base d'orge, donc il se contredit, et on écoute et on accepte ces deux paroles, et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne devra rien amener du tout. Et Maïla avait donc, que n'est-ce pas, que Mide Reb Shimon, ça va la Rabbi Yossi, puisque Reb Shimon pense, comme Rabbi Yossi, que l'on écoute même les secondes paroles qui contredisent la première, Rabbi Yossi, ça va la Rabbi Shimon. Alors Rabbi Yossi pense lui aussi, comme Rabbi Shimon, et que lorsqu'il a dit, je vais amener une oblation faite à base d'orge, alors il n'amènera rien du tout, car il n'a pas offert quelque chose, comme est l'habitude de l'offrir. Et donc, revient à nouveau la question, pourquoi Rabbi Yossi a-t-il voulu excommunier Todos? Alors, la Gemara répond, non, Rabbi Shimon, ça va la Rabbi Yossi. Rabbi Shimon, lui, il pense comme Rabbi Yossi. Velo, Rabbi Yossi, ça va la Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yossi, lui, ne pense pas comme Rabbi Shimon. Et lui, il dit que c'est vrai que lorsqu'une personne dit deux choses qui se contredisent, alors on écoute les deux choses, mais il ne pense pas qu'il y ait une obligation, lorsque l'on veut offrir quelque chose, de s'exprimer comme, et de l'offrir de la façon dont tout le monde l'offre. Et donc c'est pour cela que même lorsque on mange un gdi mekoulas, un agneau cuisiné à la façon mekoulas, c'est-à-dire en brochette avec ses entrailles à côté, alors ça donne l'impression que l'on mange quelque chose de sain à l'extérieur de Jérusalem. Iba Yalou, la Gemara s'est posé la question. Todus Ishromi, cette personne-là, Todus de Romi, Gavra Rabab, est-ce que c'était une personne importante et c'est pour ça qu'on ne l'a pas excommunié? Oba le Grofinava, ou alors c'était une personne brutale, qui est une personne qui avait de la force physique, et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas excommunié, parce qu'on avait peur de lui. Alors la Gemara nous dit, Tashma, viens, écoute. Odzu Darash Todus Ishromi. Cela aussi, Todus Ishromi l'a enseigné. Marao Hanania Michel Vazaria, Shemasru Atzman Agdushat Hashem, les Kifshan Aesh. Qu'ont vu Hanania, Michel et Azaria, qu'ils ont voulu sanctifier le nom de Dieu en se jetant dans le fourneau ardent. Lorsque Nebuchadnezzar leur a dit, ou vous prosternez devant l'idole, ou vous, on vous jette dans le fourneau. Ils ont dit, jetez-nous dans le fourneau. On a soukal vachomer batmam. Ils ont fait un raisonnement a fortiori. Mitzvah Deim, à partir des grenouilles, lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé une plaie de grenouilles en Égypte. Et ils ont réfléchi comme ça. Umat Sfardeim, Shen Metsuvim Akdushat Hashem, si déjà les grenouilles, qui n'ont pas été ordonnées de sanctifier le nom de Dieu. Ktiv Beu, il écrit à propos des grenouilles, Ubao Vealu Bevetra, elles vont venir, elles vont monter dans ta maison, Ubetanurecha, et dans tes fours, Ubemishar Rotecha, et dans tes pattes. Or, et matai, misharot, metsuyot, et tseltanur, quand les pattes sont-elles à côté du four, ou dans le four, Eveomer, tu devras me dire, beshachatanoucha, lorsque le four est chaud. C'est-à-dire qu'on met la pâte dans le four lorsque le four est chaud, pas lorsque le four est encore froid. Alors, et malgré tout, les grenouilles sont rentrées dans les pattes lorsque le tanour est chaud. C'est-à-dire, elles se sont brûlées. Pourquoi? Parce qu'il faut aller rentrer, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut aller partout, alors les grenouilles sont parties partout, même dans les pattes lorsqu'elles sont dans le four. Alors, à nous, c'est-à-dire Michel Vazaria, chez Metsuvim Akdushat Hashem, qui avons été ordonnés de sanctifier le nom de Dieu, à la Khatkam avec Ama, n'est-ce pas, plus forte raison que pour sanctifier le nom de Dieu, on devra accepter de rentrer dans un fourneau ardent. Et donc de là, ils ont appris, Hanania, Michel et Azaria, qu'il fallait accepter de se faire jeter dans le fourneau ardent. Et cet enseignement est un enseignement de Todus Ishromi. Donc puisque nous voyons que Todus Ishromi donne des enseignements, ça veut dire que c'était une personne importante et non pas une personne brutale. Rabbi Yossi bar Ravina, Rabbi Yossi bar Ravina dit, il avait une autre importance. Metil melai lakish tel talmidei chachamim. il donnait des stocks aux érudits pour qu'ils les vendent et qu'en cela, ils aient de quoi vivre. Et maintenant, nous rapportons une preuve que c'est quelque chose d'important. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit, Kol ametil melai lekis talmidei chachamim, quiconque donne du stock aux érudits afin qu'ils le vendent et qu'ils aient des moyens de subsistance, zoche v'yoshe b'yeshiva shel ma'ala, il aura le mérite de s'asseoir dans la yeshiva du ciel. Shenema, comme il est dit, ki betel achochma betel akesef. Car ainsi, on est sous la protection de la sagesse et sous la protection de l'argent. Et Rashi nous explique qu'en fait, il faut expliquer ce verset, ki betel achochma, car se trouvera sous la protection de la sagesse, betel akesef, celui qui a donné la protection de l'argent. Et donc, nous voyons de là que celui qui donne des stocks à des érudits pour qu'ils aient des moyens de subsistance qui aident les érudits à leurs moyens de subsistance, alors à ce moment-là, il sera Betzel HaChochma dans le même entourage que les érudits dans le monde futur. Et la Mishnah continue à nous citer d'autres cas où il y a des différences d'habitude suivant les endroits. Makom Shenahagu Le'adlik Etaner Belele Yom HaKippurim, les endroits où on a l'habitude d'allumer des bougies le soir de Kippour, Madlikim, on allume, bien sûr, pas pendant Kippour, mais avant Kippour, pour qu'il soit allumé durant la soirée de Kippour. Mais comme Shenagou Shelo Le'adlik, les endroits où on a l'habitude de ne pas allumer, El Madlikim, on n'allume pas. Ou Madlikim, Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot. Et on en allume dans les synagogues et les maisons d'études, ou Bemevot Afelim, et dans les ruelles sombres, Ve'algabe Acholim, et auprès des malades. Tana, nous avons enseigné dans une braïta. Ben Shamru Le'adlik, ou Ben Shamru Shelo Le'adlik, que ce soit ceux qui ont l'habitude et qui ont dit qu'on allume des bougies la veille de Kippour, ou que ce soit ceux qui ont dit qu'ils ont pris l'habitude de ne pas en allumer, Shneem, ces deux catégories de gens, les Davar et Khanit Kamnou, n'ont eu qu'une seule pensée, une seule intention. Et Rashi nous explique quelle était leur intention, car il y a une loi qui nous dit que le soir de Kippour, on n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec sa femme. Alors ceux qui disent que l'on allume des bougies le soir de Kippour, c'est pour, tout simplement car il y a une règle qui nous dit qu'on n'a pas le droit aussi d'avoir des relations intimes avec sa femme à la lumière d'une bougie. Et donc, puisqu'il y a des bougies, il n'en viendra pas avoir des relations intimes avec sa femme, puisqu'il y a une bougie allumée. Et celui qui a dit qu'on n'allumait pas des bougies le soir de Kippour, c'est tout simplement pour ne pas qu'il voie sa femme et qu'il en vienne à avoir envie d'elle et donc d'avoir des relations intimes. C'est pour ça qu'il dit, on n'allume pas de bougie, comme ça il ne voit pas sa femme. Amar Rav Yehoshua a dit, Darash Rava enseigné, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des justes, Le'olam yirshu aretz, et à jamais ils hériteront la terre. Ben shamu ladik, ben shamu shelo ladik, que ce soit ceux qui ont dit qu'on doit allumer, ou que ce soit ceux qui ont dit qu'on n'allume pas de bougie, la veille de Kippour, les deux n'avaient qu'une seule intention, c'est-à-dire de ne pas avoir de relation intime avec sa femme le soir de Kippour. Et c'est donc c'est pour ça, avec Amer, ton peuple, sont tous des justes, qu'ils se conduisent ainsi ou qu'ils se conduisent comme cela. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, En mevachim alaor, ela bemotzei Shabbat. On ne récite de bénédiction sur la lumière du feu seulement le motzei Shabbat à la sortie du Shabbat, comme nous le faisons de nos jours durant l'Avdahala, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Boré meoré aesh. Cette bénédiction n'est récitée que le motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat. Pourquoi? Oil vetrilat briatou. Car c'est le moment où la lumière du feu a été créée. Azamar le Osaba veite ma Rabba Baba Chana. Un ancien lui a dit, et il y en a qui le disent au nom de Rabba Baba Chana. Yacher. Très bien. Vechen amar Rabbi Yochanan. Et ainsi a dit aussi Rabbi Yochanan. Oula, avara chivchamra veazil. Oula, chevauchait un âne. Et aller en chemin, ve'abasha qu'il ve'azil, Rabbi Abba mimine, ve'Rabba Barba Chana mismale. Et aller avec lui en chemin, Rabbi Abba à sa droite, et Rabba Barba Chana à sa gauche. Amar le Rabbi Abba leula. Rabbi Abba lui a dit oula. Vadaï de Amrit ou Mishme de Rabbi Yochanan. N'est-ce pas, c'est sûr que vous avez dit au nom de Rabbi Yochanan, En mevachim alaor et la bemotse Shabbat, qu'on ne récite de bénédiction sur la lumière du feu, que le motse Shabbat, à la sortie du Shabbat. Oil metrila driatou. Car, c'est le moment où il a été créé. Adar Oula, alors Oula s'est retourné lorsqu'il a entendu que Rabbi Abba a dit une chose pareille. Chazabe be Rabba Bar Bachana Bishot. Et il a regardé Rabba Bar Bachana durement. Car Oula a compris que si Rabbi Abba a rapporté un enseignement de Rabbi Yochanan, il a entendu par l'intermédiaire de Rabba Bar Bachana. Or, il n'a pas rapporté cet enseignement tel que Rabbi Yochanan l'a dit. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, Oula savait que Rabbi Yochanan lui enseignait qu'on récite la bénédiction et Motsaï Shabbat et à la sortie de Kippour. Et Rabba Bar Bachana, lorsqu'il a rapporté cet enseignement à Rabbi Abba, il n'a cité que la sortie du Shabbat. Donc Oula a regardé durement Rabba Bar Bachana, car il n'a pas rapporté entièrement l'enseignement de Rabbi Yochanan. Azamar, et Rabba Bar Bachana a compris la raison pour laquelle Oula l'a regardé durement, alors il lui a dit, « Anna, moi, Lava Amre, ce n'est pas sur cette chose-là que je me suis exprimé. Ce n'est pas cet enseignement que j'ai rapporté. Et là, Amre, mais voici ce que j'ai dit. D'Etan et Tana Kamed Rabbi Yochanan, quand Tana a enseigné devant Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Yom HaKippurim Shechal Yod B'Shabbat, le jour de Kippour qui tombe un jour de Shabbat, Av Bimkom Shamru Shelo Ladik, même les endroits qui n'avaient pas l'habitude d'allumer des bougies la veille de Kippour, Madlikim, on en allumait, Mimne Kvod HaShabbat, à cause de l'honneur de Shabbat. Vane Rabbi Yochanan Batre, et Rabbi Yochanan a répondu après ce Tana, Vechachamim Osrim, et les sages interdisent. Et donc, c'est ça l'enseignement que j'ai rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Et je n'ai rapporté aucun enseignement au nom de Rabbi Yochanan à propos de Motsaï Shabbat. Azamal, il lui a répondu, Oula Adate. Ça, en effet, Rabbi Yochanan l'a dit. Et donc, en fait, l'enseignement que Rabbi Abba a entendu au nom de Rabbi Yochanan, il ne l'a pas entendu par l'intermédiaire de Rabba Bar Bachana. Carré allé Rabbi Yosef. Alors Rabbi Yosef, lorsqu'il a entendu cette histoire, il a cité sur Oula et sur Rabba Bar Bachana le verset suivant. Maïm amukim etza belevish. Les idées de l'homme sont dans son cœur comme de l'eau profonde.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.